RMC, quand Brigitte Lahaie fait son show, c'est le Lahaie Night Show.
Et nous repartons maintenant pour le Love Test. Trois questions indiscrètes à Julie Duchemin, François Saint-Père et moi-même. Et on terminera évidemment avec la question pour Stéphane, parce que Stéphane, il n'y a pas de raison que vous échappiez à ce Love Test, bien sûr. Mais vous avez le... C'est vous qui tirez le premier.
Oui, j'en ai une très drôle. Je m'adresse à Julie, mais vous allez être impliquée, Brigitte, parce que Julie doit réaliser un entretien pour un film X avec l'accent bimbo. Hein. Donc, elle est candidate au film X, c'est une bimbo. Et vous, Brigitte, vous allez être...
Je suis la réalisatrice.
Le recruteur, c'est vous qui l'a.
Bonjour, Julie.
Bonjour, Brigitte. En fait, j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup tourner dans votre film et je pense que j'ai beaucoup d'arguments pour ça.
D'accord, c'est quoi vos talents?
Alors, mon talent, c'est que je suce déjà divinement et j'ai une grosse poitrine et avec des gros mamelons et en général les hommes aiment ça et puis j'accepte qu'on finisse dans surtout mon corps etc entre mes fesses.
Vous acceptez tout quoi?
La totale quoi, oui, voilà, la totale. Je suis la totale.
Bon bah, c'est pas mal, on va l'embaucher.
Elle est brillante.
Bravo, bravo,
autant
bravo.
Je vous assure que j'ai jamais fait de casting de ce genre.
On en doute. Alors, Françoise, vous draguez quelqu'un
Stéphane,
autour de la
donc.
Table, pourquoi pas, comme si vous étiez en boîte de nuit complètement bourré.
Oh là, je suis bourrée, là. Est-ce qu'il est pas mal, ce petit gars-là? Il faut absolument que j'aille lui dire quelque chose, pourvu que ce ne soit pas un homo, parce qu'à chaque fois qu'un homme me plaît, moi, c'est un homo, je suis un peu bourrée, parce qu'ils sont tellement beaux. Oh, écoutez... Vous permettez que je mette la main sur vos fesses?
Écoutez, c'est donnant-donnant.
Ah, donnant-donnant, mais il faut d'abord que vous donniez un petit peu. On pourrait peut-être commencer par danser un peu pour voir ce que ça donne, si nos peaux se parlent.
Mais vous n'auriez pas trop bu?
Ah, pas du tout, pas du tout. C'est en toute lucidité que je vous le dis. Vous savez, de loin, je vous ai vu, et puis brusquement, ma vue s'est éclairée. Et pourtant, elle n'était pas très claire, hein, jusqu'ici. Donc, vous m'avez. Je ne dirais pas que vous m'avez dessoulé, mais vous m'avez dégrisé en me grisant.
Bravo!
Finalement,
bravo,
les filles draguent comme les hommes.
Ah, bah oui, quand elles ont bu.
Quand elles ont bu.
Bah, c'est en boîte de nuit, hein.
Oui.
Dans la vie courante, on fait différemment.
Alors, à vous, Brigitte.
Oui.
Alors, je me perds un peu, mais. Là, voilà, c'est plus précis, c'est presque pédagogique.
C'était un 69, là, hein, que vous m'avez fait, Stéphane.
Alors, Brigitte, quelle particularité physique chez l'autre ou chez vous, je ne sais pas, il ne précise pas, vous rebute?
Alors, je déteste les barbus.
Ah.
C'est marrant, mais alors ça, c'est un truc. Un homme barbu, vraiment, je ne peux pas. Je ne peux pas l'embrasser déjà.
Ah oui?
Ah oui, non, mais vraiment. Déjà, la moustache. Non, mais vous me demandez ce qui me rebute.
Oui, oui, non, mais ni le reste, vous ne pouvez pas l'embrasser, mais vous ne pouvez rien faire d'autre.
Lui faire une fellation, si je n'ai pas envie de l'embrasser, vous ne pensez quand même pas que j'ai envie de lui faire une fellation.
Non, mais la barbe, ça descend pas si bas.
Je suis obsédée, mais quand même pas à ce point. Mais non, mais vous imaginez, s'il a déjà tous ses poils sur le visage, qu'est-ce qu'il doit y avoir sur le pubis?
Ah oui, c'est ça, d'accord.
Quoi, c'est pas forcément.
Ah bah voilà, c'est mon imaginaire. J'y peux rien, mais alors vraiment.
Ah oui, donc si vous êtes barbu,
et les moustaches, c'est pas
moustache
trop...
pas terrible non
c'est...
plus.
Hein. Non. Mais les moustaches, c'est souvent porté par des cons. Hein.
Ça revient à la mode.
Les cons.
Ce qui est terrible, c'est en ce moment la mode des hipsters avec plein de poils partout. Hein. Je trouve ça affreux. Ça.
Bah oui. Peut-être parce que j'ai eu un singe dans mon enfance. Alors, c'était mon petit bébé, alors voilà.
Pourvu que la mode ne gagne pas les femmes.
Eh bien, Stéphane, faites le malin, mais maintenant, ça va être à vous de répondre. Alors, c'est une carte question. Justement, quelle est la pire expérience que vous avez eue? Alors, sur un site de rencontre, il est marqué, mais vous n'allez peut-être pas sur les sites de rencontre.
Continuez la question.
Ouais, c'est tout.
La pire
expérience de rencontre.
Ah, de rencontre ou de relation? Oui, de rencontre.
Bah oui. Il y en a tellement. Vous n'avez pas à choisir.
Non, j'en ai eu que des bonnes.
Alors la moins bonne alors.
La pire expérience. je sais pas, sans doute celle qui m'attend parce que j'ai pas de
alors,
mauvaise.
Ce serait quoi la pire expérience de rencontre?
La mauvaise haleine.
Ah oui, je comprends ça.
Et puis ça, on s'en rend compte juste au moment où on va s'embrasser.
Oui, c'est
terrible.
Ça. Donc que tout soit parfait, sauf ça, quoi. Ah, oui. Parce que c'est, on peut pas le dire, quoi. Enfin,
c'est difficile.
Oui, c'est difficile, oui. Oui, non, c'est ça. Non, l'odeur. Je vais parler un peu de ma vie. Je supporte pas les mauvaises odeurs.
Non, ça, je comprends.
C'est très difficile. Et les barbus, ils sont
ce qui est terrible avec les odeurs, c'est que c'est très personnel.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas.
Oui, quand même, quand les gens se lavent pas.
Oui, bien sûr. Quand je suis quelqu'un de vraiment sale, mais ensuite, il y a des odeurs même qui sont légères que d'autres ne sentiront pas. Moi, je suis très très sensible aux odeurs.
On peut plus rien faire. Hein.
Ah oui,
ça bloque à tous les niveaux. Oui.
Bah, on peut proposer une douche.
Oui, mais voilà, c'est une bonne idée.
Ça dépend des cultures. Il y a des cultures chez qui, au contraire, c'est des odeurs fortes qui sont excitantes.
Absolument.
Donc voilà,
absolument.
Je pense que c'est peut-être ici des personnes présentes qui sont plus sensibles à des un certain type d'odeurs.
Les Belges sont sensibles aux odeurs fortes.
Il y a les odeurs fortes.
J'ai marqué dans les textes érotiques québécois qu'on trouve sur certains sites, ils parlent toujours de l'odeur, mais même l'odeur en disant oh, elle puait bien le fauve, et ils ont l'air de trouver ça très excitant.
Jusqu'au XVIIe siècle.
Napoléon aimait aussi l'odeur.
Les gens se lavaient pas, donc ils n'avaient pas le choix.
Tout à fait.
Oui, en même temps, c'est vrai, on doit s'habituer aussi si finalement
on est élevé par des gens qui sont mauvais, donc ça va, on est habitué. Hein. Mm-hmm.
Donc on a été élevé par des gens qui sentaient bon.
Tant, sans doute.
Et puis c'est le moment que nous écoutions maintenant, le témoignage de Stella. Elle nous expliquait que les rencontres d'un soir, c'est pas forcément les plus heureuses, vous voyez, Stéphane. Et puis Baptiste va évoquer son instance de divorce avec son ex enceinte d'un autre homme, ça promet. Et c'est Bruno Martin qui était là.
RMC, vous aimiez les femmes avant ? Vous allez les adorer.
Bonjour Brigitte.
Alors, vous avez essayé, vous, les rencontres d'un soir, et a priori, c'est pas pour vous raconter, nous.
Voilà, alors moi, a priori, je suis quelqu'un de très fidèle et de très romantique, on va dire, donc j'ai toujours pensé que c'était pas vraiment pour moi. Et puis, lorsque je me suis séparée de mon compagnon il y a quelques années, il est vrai qu'après une petite période de deuil, on va dire, bon voilà, j'ai eu ma petite période de grande tristesse, nostalgie, où j'avais plutôt, j'avais plus envie de rien. Donc j'avais laissé les hommes de côté pendant un moment, et puis quand j'ai repris goût aux sorties, etc., enfin j'étais très entourée, donc j'avais toujours des amis qui voulaient à tout prix me caser et me faire... qui essayait en tout cas de provoquer des rencontres. Donc je me suis un peu forcée, c'est vrai que je me suis mise à sortir, à faire comme les copines et à me dire, bon, pourquoi pas, elles sont plus libres que moi, je suis peut-être coincée. Enfin, je me suis posé tout un tas de questions, j'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas chez moi, si tant est que quelque chose n'allait pas chez moi, après
bien
on
sûr,
est tous
oui.
différents.
Mmh. Mmh.
Et donc j'ai essayé ça, donc je me suis lâchée un peu, j'ai essayé d'être un peu moins sur la défensive lorsqu'un homme m'abordait, et donc j'ai essayé ça, les rencontres d'un soir, d'une nuit, et je me suis rendu compte tout simplement qu'il y avait aucun plaisir là-dedans, quoi, c'était vraiment pas pour moi. Parce que voilà, quand moi je suis quelqu'un d'assez cérébral, donc j'ai besoin d'abord de connaître la personne, d'être un minimum attiré, j'allais dire un minimum amoureuse. Alors évidemment, un soir on tombe pas amoureuse, c'est ça le problème avec moi, je pense, c'est que j'ai vraiment besoin d'autre chose que comment dirais-je, que d'une attirance physique. Que ce côté animal, quoi, qu'ont les hommes et que nous on n'a pas, parce qu'il nous faut quand même quelque chose, il faut qu'on soit attiré intellectuellement.
En tout cas, vous, ce qui provoque une excitation charnelle, disons, c'est le fait de émotionnellement vous sentir bien. Hein, on pourrait schématiser les choses comme ça.
Oui. Bah, c'est-à-dire que quand je suis amoureuse. Le plaisir est là et je peux arriver au nirvana assez rapidement, assez sereinement, assez facilement. Maintenant, quelqu'un que je ne connais pas, je vais rester certainement que ça c'est dû à un blocage. Hein, je ne sais pas.
Pas forcément. Mais... C'est là. En tout cas, vous fonctionnez comme ça et il faut respecter votre manière de fonctionner. Il n'y a pas
pourquoi parler
tout de suite de d'inhibition,
oui,
de blocage.
Pas fatalement le blocage, mais c'est vrai que le sens féminin tourne plutôt. D'abord par l'attention et le sentiment, et ensuite un petit peu de respect, de tendresse, et on passe ensuite éventuellement au sexe. C'est plutôt le sens qu'on voit traditionnellement. vous n'adhérez à la sexualité, au ressenti même de la sexualité, qu'en étant à minima empli par le sentiment et un petit peu de tendresse.
Voilà.
Mais bon, ça c'est traditionnel.
Dans les rencontres d'un soir. Donc, et en discutant avec un groupe de copines quelques temps plus tard, je me suis rendu compte que, parce que je leur ai dit la vérité, je leur ai dit, écoutez, moi je vais arrêter de faire ça parce que je prends pas mon pied, quoi. Le lendemain matin, je me demande pourquoi j'ai fait ça, je me sens pas bien. Ça n'a rien à voir avec, il y a pas de moralité là-dedans, hein. C'est juste que je me dis, je me rends compte en fait que je me suis forcée, pendant un temps à vouloir faire comme les autres, à vouloir être comme
elle. Mais
elle me taquinait un peu en me disant tu dois être coincée.
Non mais c'était la question quand même qu'il faut qu'on vous pose, c'est est-ce que quand vous faisiez l'amour comme ça juste une fois avec un homme, vous aviez un peu de plaisir ou pas du tout?
Non. Du tout. J'avais l'impression que tout était mécanique.
Donc là,
toucher une peau que je ne connais pas, embrasser quelqu'un que je ne connais pas, ça me fait vraiment bizarre. Et j'ai l'impression
C'est évident qu'à ce moment-là, il faut pas faire ça, parce que si vous n'éprouvez aucun...
Ah ben je ne le fais plus, non, mais vous dire qu'il y a quand même un modèle aujourd'hui dans la société, alors on en revient toujours au même, c'est vrai que les magazines féminins passent leur temps à nous dire comment donner plus de plaisir à votre homme, comment être libéré, donc on se sent toujours un peu, quand on n'a pas envie, on culpabilise, quoi. Donc, il est arrivé un moment où je me suis posé tellement de questions que je me suis dit, je vais essayer ça. Aujourd'hui, je suis sûre et certaine que c'est pas pour moi. J'ai seulement besoin d'être amoureuse et même si on veut en aller plus loin, j'étais pourtant amoureuse de mon compagnon de l'époque. Il est arrivé un moment où, au bout de 8 ans, j'avais plus vraiment envie. Et voilà, encore une fois, je pense, et pourtant, je l'aimais, mais
visiblement, Stella, la sexualité chez vous n'est pas un élément très très important. Vous pourriez vous en placer. Alors, je pense que vous avez du mal à vous passer de liens. Hein, et j'espère pour vous que vous avez autour de vous des gens avec qui vous êtes en lien. Mais la sexualité, visiblement, c'est pas quelque chose de très important pour vous. Et voilà tout.
Elle vient à la fin.
Ça l'est au début d'une histoire, en fait, quand je tombe amoureuse et quand c'est le début où tout est, enfin, quand on est dans la passion, mais ça dure quoi, 6 mois? Et au bout d'un an, je me rends compte que j'ai plus envie, que je m'ennuie et j'ai envie de passer à autre chose, quoi.
Oui, mais vous n'érotisez pas le rapport sexuel, vous érotisez le sentiment et la tendresse. C'est-à-dire que vous n'avez pas cultivé des sources d'excitation en dehors du romantisme. Et c'est un peu dommage parce que vous allez devoir changer d'homme tous les 6 mois à cette cadence-là. C'est un peu compliqué. Alors qu'il faudrait quand même aller chercher des sources.
J'avais pas vu ça comme ça.
Ben, si, il va falloir aller chercher des sources d'excitation ailleurs. Il faut un imaginaire érotique. Il faut être excité de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et de ce qu'on sent aussi, en se branchant, qu'on le veuille ou non, sur le cerveau primaire. Parce que si on n'est pas connecté sur ces sources-là, personne n'est excité. Et vous donnez
nous,
l'accès.
Les femmes, on n'a pas ce côté primaire.
Mais bien sûr
là,
que si, vous l'avez. Mais vous l'avez. Mais faut aller Et vous ne le contactez que quand vous êtes amoureuse, vous. Et c'est ça le problème. Il va falloir enlever cette clé de contact systématique. Parce que je vais vous dire un truc, c'est presque dangereux. Tout simplement parce que si vous ne vous autorisez pas à ce que j'appelle picorer, c'est-à-dire remplir vos petits réservoirs sentimentaux, tendres et génitaux, les trois qui font l'amour, si vous ne les alimentez pas régulièrement, même d'une manière un petit peu disparate avec des gens un peu différents, vous allez attendre la révélation du grand amour, et à force d'attendre, vous allez tomber sur quelqu'un qui présente très peu de critères attractifs, mais à qui vous allez faire crédit de tout ce qui n'a pas, et vous allez vous engager dans des histoires amoureuses, vous allez être déçu souvent parce que vous allez tomber amoureuse de votre rêve. Et c'est dommage, tandis que si vous remplissez vos petits réservoirs un à un, avec des gens parfois différents, vous serez beaucoup plus lucide pour lire les réels critères des gens que vous allez rencontrer et rentrer dans une vraie histoire amoureuse.
Eh bien voilà le conseil de Bruno Martin, Stella. Merci en tout cas de votre appel. Baptiste, vous êtes avec nous. Bonjour Baptiste.
Ouais, bonjour Brigitte, bonjour à tous.
Vous avez 42 ans et vous êtes en instance de divorce, hein, c'est bien ça?
C'est bien cela.
Avec une fille de 4 ans.
Oui.
Et elle est enceinte actuellement, mais d'un autre homme, c'est ça?
Exactement. 4 ou 5 mois après notre séparation de corps, eh bien, elle a eu une aventure d'un soir, on va dire ça comme cela. Et elle s'est retrouvée enceinte. C'était un accident, on va dire. Et le souci que j'ai, entre guillemets, par rapport à cela, c'est que c'est en fait ma fille, ma propre fille, qui m'a appris la nouvelle. Donc effectivement, vous pouvez imaginer un petit peu la situation dans laquelle je me suis retrouvé, le désarroi par rapport à tout cela. Donc du coup, elle se retrouve enceinte. Situation un petit peu compliquée parce que ce monsieur est également engagé maritalement par ailleurs et qu'il a déjà des enfants et que apparemment c'est un petit peu tendu. Donc une situation, je dirais, compliquée de toutes parts pour moi, bien évidemment. Pour
ce qui est surtout troublant dans ce que vous racontez, Baptiste, c'est qu'on sent qu'elle est un peu perdue elle-même, parce que raconter ça à sa petite fille de 4 ans, c'est pas une amie à qui on se confie. Une petite fille de 4 ans.
Exactement. La situation, c'est que effectivement, le confier à une fille qui vient juste à peine d'avoir 4 ans, c'est un petit peu tendu. Parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, c'est une enfant de 4 ans, il faut absolument la préserver. Mmh. C'est pas une confidente, c'est pas une copine, donc voilà.
Vous avez pu en parler avec votre femme, Baptiste, tout ça, ou pas?
Oui, j'en ai parlé, je ne veux pas non plus essayer de l'enfoncer non plus, mais bon, je lui ai dit que c'était quelque part une erreur, qu'il fallait essayer de préserver l'enfant de tout cela.
Oui, écoutez, je pense que ce qui est important d'abord, c'est de savoir quelle situation elle envisage. Est-ce qu'elle envisage de rester avec cet autre homme, ou parce que vous m'avez dit c'est un accident au fond. Bon, visiblement, elle a pas fait le choix d'avorter. C'est son choix et on le respecte, bien sûr.
Mais oui.
Est-ce qu'elle a l'intention de maintenir cette relation avec cet autre homme ou pas?
Ben c'est un petit peu l'inconnu. Parce qu'effectivement, le monsieur en question lui a promis monts et merveilles, mais étant engagé par ailleurs, avec des enfants à charge, ben effectivement, plus le temps passe, plus effectivement, ce monsieur s'est fait attendre. Donc, elle a pris la résolution de faire comme si ce monsieur n'assumerait pas, entre guillemets, ses responsabilités.
Vous, de toute façon, c'est une relation qui est finie. Vous avez envie de passer à autre chose. C'est bien clair pour vous ou pas?
Non, c'est pas encore clair.
Oui,
oui.
C'est tout ça que sent votre petite fille et qui peut en effet la perturber. Hein. C'est à la fois une relation entre son papa et sa maman qui semble terminée, mais qui en même temps est encore confuse. Une maman qui quelque part, à peine a quitté son papa, prend un autre papa en quelque sorte. Hein.
C'est ça qu'elle
entend, la petite fille. Donc moi je crois votre rôle en tant que père, c'est de rassurer votre petite fille, de dire écoute, ton papa et ta maman se sont beaucoup aimés. Aujourd'hui, on s'entend plus très bien, mais on reste ton papa et ta maman. Ne t'inquiète pas. Et puis ta maman, pour l'instant, elle envisage peut-être quelque chose avec un autre homme, mais de toute façon tu restes sa petite fille. Et puis je crois qu'il faut pas aller plus loin et surtout ne pas trop vous inquiéter, parce que c'est votre inquiétude souvent qui devient l'inquiétude de l'enfant.
Oui.
Je sais que c'est facile à dire, parce que évidemment pour vous c'est compliqué, mais essayez vraiment de banaliser un peu les choses, et curieusement quand on banalise les choses, les enfants se sentent un peu mieux. Si vous donnez trop d'explications, si vous essayez trop de la rassurer, c'est là où quelque part l'enfant se dit mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, enfin.
Ouais, peut-être que vous avez raison, parce qu'en fait je me pose beaucoup de questions par rapport à son équilibre psychologique, en me disant voilà, il y avait une relation mon père ma mère, j'attends un petit frère ou une petite sœur, je sais pas encore, il y a un fameux monsieur qui commence à rentrer dans ma vie, que j'ai aperçu 2-3 fois, que voilà. Et donc peut-être qu'au fond on devrait entre guillemets banaliser la chose, mais je me pose beaucoup de questions par rapport à son devenir, entre guillemets.
Non, mais vous posez pas trop de questions, justement. Et encore une fois, bien sûr que ce serait mieux que sa mère, pour l'instant, laisse un petit peu son histoire, qui n'est pas une vraie relation, de côté. Et je crois que c'est pas forcément bien que sa fille soit déjà au courant de tout ça. On est d'accord. Mais bon, les faits sont là. On peut pas revenir en arrière. Voilà. Vous avez quand même été un couple stable pendant les premières années de votre fille. Donc, il y a quand même quelque chose de solide, de construit déjà.
Tout à fait.
Vous voyez, donc il faut aussi vous rassurer là-dessus. C'est pas une enfant qui a été malmenée, maltraitée. Elle a 4 ans, elle a déjà des bases, des fondations. Elle sait qu'elle est issue d'un papa et d'une maman. Et puis que, ben là, voilà, et elle découvre, mais ça, malheureusement, beaucoup d'enfants aujourd'hui le découvrent, qu'un couple, c'est pas une histoire durable, quoi qu'il arrive. Bon, et vous êtes là, vous êtes présent, et puis sa maman l'aime certainement aussi beaucoup, elle est présente, bon, voilà. Et,
totalement.
Et c'est sûr que ça va être un moment de sa vie qui va provoquer des choses, mais on n'en sait rien, on peut pas savoir, vous savez, comment un enfant va réagir. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'en effet, plus, en tant que parent, on reste stable et on ne transmet pas toutes nos inquiétudes, nos souffrances, nos changements, notre ambivalence émotionnelle, parce qu'au fond c'est ça qui perturbe beaucoup l'enfant. C'est que à un moment vous allez avoir envie de dire du bien de votre femme, et puis par moment vous allez avoir envie de dire du mal parce que ben vous êtes en pleine séparation, et c'est ces bouleversements d'émotions qui peuvent perturber les enfants au fond. Vous voyez ce que D'accord. je veux dire? Donc restez stable, c'est le meilleur conseil et la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre fille.
Très bien, écoutez, c'est noté.
Et c'est le Love Conseil qui vous attend, mais je ne vous dis toujours pas de quoi on va parler.
RMC, c'est le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lae fait son show, c'est le Lae Night Show.
On va évoquer un secret ce soir en Love Conseil, et je parle sous les yeux de Françoise Saint-Père et de Julie Duchemin, parce que elles vont peut-être confirmer ou pas d'ailleurs ce secret que je vais vous révéler dans ce Love Conseil. C'est le secret des maîtresses, des meilleures maîtresses. Stéphane Clergé, vous ne le connaissez peut-être pas ce secret, mais vous allez pouvoir aussi nous dire si ça vous semble vraiment un secret. Enfin, en tout cas, si c'est efficace. En fait, c'est des femmes qui ont compris que le moment où l'homme les pénètre, c'est un moment crucial. Ça, pour l'instant, vous êtes d'accord. Hein, le moment où la première fois qu'un homme va pénétrer une femme, bah, c'est quand même un moment important. Et donc, elles ont appris à faire parler leur vagin, en quelque sorte. Et c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, puisqu'il suffit qu'au moment de la pénétration, la femme expire, je dis bien expire profondément, pour ensuite, au moment où juste le gland commence à pénétrer, elle se met à inspirer tout en contractant ses muscles pelviens. Et là, il a vraiment la sensation qu'il est aspiré et qu'il est pris. Vous êtes d'accord toutes les deux? Vous êtes en train de visualiser la scène,
non,
François, je vois
que
bien.
Si je dois penser à tout ça, ça va un peu me couper mes effets.
Ah bah oui, mais c'est de l'entraînement, François.
Non, mais je pensais plus au fait de simplement contracter, vous savez, comme la rééducation qu'on fait post-accouchement.
Oui, bien sûr, mais si en plus il y a cet effet de respiration, d'expiration et d'inspiration, ça crée quelque chose de plus.
Ah, moi, je le sens bien, le coup de l'aspirateur, là. Ça,
le coup de l'aspirateur, oui. Moi, je vais vous gâcher le plaisir, Stéphane. Je vais vous dire, je trouve que chez un homme, c'est pas la pénétration le plus important. Enfin, moi, je trouve que dans la jouissance des femmes, il y a beaucoup d'autres choses que la pénétration, et que même la pénétration est presque secondaire, et je suis pas la seule à le penser.
D'accord, mais là, on parle du secret des maîtresses, des excellentes maîtresses. Hein.
Ah ouais, mais je pense être une excellente maîtresse, même si je ne trouve pas que la pénétration soit primordiale.
Non, mais d'accord, mais je parle de l'effet pour l'homme.
Oui.
Je parle pas de l'effet pour la femme. Là, je suis en train de donner un conseil aux femmes pour que les hommes trouvent qu'elles sont d'excellentes maîtresses.
Ah oui.
Voilà,
donc l'aspirateur, ça vous...
Mais je pense qu'effectivement, ça peut avoir son succès, oui.
Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça au moment de la pénétration, après, il faut relâcher les muscles pelviens, parce que ça donnera justement l'impression que votre ventre s'ouvre de manière beaucoup plus voluptueuse, pour donc mieux l'accueillir. Et ensuite, si vous posez vos mains fortement sur son bassin, vous allez pouvoir le retenir, ou au contraire, le repousser, de manière à ce que vous puissiez en même temps lui donner l'impression que c'est lui qui vous baise, mais que vous êtes quand même aussi maîtresse, si je puis dire, de l'acte. Parce que les hommes n'aiment pas finalement que la femme soit trop passive.
C'est vrai.
Et merci. Au moins qui me soutient dans mon love conseil. Voilà. Et c'est vrai que tout ça, alors après, c'est évidemment, on peut s'entraîner. Par exemple, une femme peut très bien s'entraîner avec un Godemiché, d'inspirer, d'expirer pour bien comprendre. Mais on ne le dira jamais assez. Je crois que Julie Duchemin, vous l'expliquez ça aussi dans vos réunions, dans vos séminaires. La respiration, l'inspiration, l'expiration lors du coït, ça change franchement la donne.
C'est vraiment c'est effectivement une clé. On anime des séminaires d'initiation tantra dans lesquels la respiration et la respiration sexuelle notamment sont effectivement à la base d'autres découvertes. On parlait tout à l'heure du bandeau qui ouvre à d'autres sensations. Cette respiration, là aussi, les hommes sont pas habitués à ça. La plupart des hommes, c'est mouvement rapide, éjaculation. Et quand on fait d'autres choses comme ce que vous proposez, effectivement, comme secret, c'est-à-dire de plutôt dans quelque chose de beaucoup plus subtil, là, d'inspirer, ça ne doit pas être forcément dans la rapidité, l'homme peut tout d'un coup sentir autre chose qui se passe et se dire « Oups, qu'est-ce qui m'arrive ?» Il peut d'ailleurs ne pas localiser exactement. Et oui, je suis favorable à ces trucs-là, même si je rejoins Françoise dans le sens où il y a des hommes qui parfois ont peur, enfin les troubles érectiles touchent quand même pas mal d'hommes aussi, et que si on met cette pression de la pénétration, parfois ça peut un petit peu inhiber certains hommes, et donc je pense que c'est aussi important de leur dire qu'on aime un tas de choses et que même eux peuvent avoir des tas de sensations à d'autres choses que la pénétration, mais j'entends que ce moment, cet acte symbolique où la première fois l'homme pénètre dans la femme, quand il y a l'érection, d'ailleurs, qui ne doit pas être au sommet, hein, ça peut être une érection moyenne, il peut y avoir pénétration quand même. C'est un moment symboliquement fort, émotionnellement très fort aussi.
Mais de toute façon, la respiration pour les hommes qui ont justement des problèmes d'érection ou des problèmes de plaisir rapide, ça aide énormément.
Ça aide parce que ça relaxe.
Là, c'est eux qui doivent aussi respirer dans leur ventre, effectivement. Aussi.
Donc plus on sera en conscience dans sa respiration, mieux on fera l'amour. De toute façon, c'est vrai que c'est plus un secret.
Oui.
Bien sûr.
La petite mort, c'est aussi expirer.
Oui,
très joli.
C'est vrai, absolument. Et puis, vous croyez que le prince charmant existe? Certains sont à la recherche d'un idéal, et c'est Marie qui va témoigner dans un instant. Et puis d'autres ont fait des rencontres magiques sur le net, comme Isabelle, dont on va écouter également le témoignage. Et pour l'instant, eh bien, on écoute l'avis de Christian Jamin. Est-ce que le prince charmant est une réalité ou un mythe?
RMC, quand les femmes se lâchent, c'est dans le Lion Night Show.
Eh bien, c'est avec Christian Jamin que nous allons voir si ce mythe du prince charmant est toujours d'actualité. Christian Jamin, vous êtes médecin spécialiste en endocrinologie et gynécologie. Tous les jours, vous recevez des femmes qui sont heureuses, en amour ou pas, qui sont peut-être à la recherche du futur amant. Est-ce que vous avez le sentiment que le prince charmant, c'est toujours d'actualité ou pas?
Alors, à l'évidence, oui. Le prince charmant, c'est celui qui correspond au fantasme de chacune. Donc, heureusement, il y a quasiment autant de princes charmants que de femmes. Et alors, bien sûr, il y en a qui sont plus attirants ou attirantes les uns que les autres, mais il n'y a pas d'archétype.
Mais justement, dans ce mythe du prince charmant, c'est au fond. Un homme qui serait parfait, on recherche un peu une sorte d'idéal, et c'est en ça que c'est dangereux, ce mythe, parce que du coup on va forcément être déçu dans les premiers temps de sa vie amoureuse.
Alors, le prince charmant, c'est pas celui qu'on imagine, c'est celui qu'on rencontre, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'il y a énormément de femmes ou d'hommes qui sont seuls et malheureux, justement parce qu'elles se sont fait des portraits très rigides de la personne qu'elles cherchent, et on ne la trouve jamais. En revanche, le prince charmant ou la princesse, c'est celui qui vous donne de l'émotion, alors pour des critères qui sont variables de l'un à l'autre, mais encore une fois, je le répète, le prince charmant, ça se rencontre. Ça ne se décrète pas.
Ah oui, alors on n'a pas tout à fait la même vision de cette idée du prince charmant. Pour moi, c'est quand même un être un peu idéalisé qui serait toujours charmant, toujours là, toujours enfin une sorte de créature tout à fait introuvable, quoi.
Oui, mais justement, il est introuvable, donc il faut avoir des arrangements avec le ciel et avec ses fantasmes.
Oui, avec ce mythe, donc.
Oui, donc exactement. Donc on peut avoir des rêves, mais en fait, l'important, c'est de transposer ses rêves face à une réalité et faire que la personne qui est en face de vous finalement ressemble de près ou de loin, mais peu importe, à celui que vous avez imaginé.
Allez, finalement, Christian, vous êtes peut-être mon prince charmant, alors.
Marie semble être aussi un peu dans cette recherche d'idéal. Bonjour, Marie.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Brigitte. Bonjour, Christian.
Bonjour.
Vous avez pourtant, voilà, vous avez été mariée 30 ans, donc visiblement, ce n'était pas un prince charmant.
Il m'a quittée il y a 4 ans maintenant. Je suis restée un an seule pour digérer tout ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à sortir. Et puis la première personne que j'ai rencontrée vraiment par hasard en allant dans une boîte, j'attendais des personnes qui n'étaient pas là. Et finalement, ce monsieur était là. On a commencé à discuter. C'était un libertin. Donc j'ai commencé à connaître un peu ce monde du libertinage, pardon, et qui m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai fait des rencontres, plusieurs rencontres, toujours intéressantes, toujours...
En tout cas, intéressantes sur le plan charnel, j'imagine.
Oui. Et maintenant, ben voilà, j'ai une nouvelle relation, là, ça fait pas longtemps, ça fait à peu près un mois, et je mise tout là-dessus, bien sûr. Alors, on espère toujours le prince charmant, mais quelque part, il faut pas se mettre trop de barrières, je pense que... On est content de rencontrer la personne et d'essayer de la découvrir petit à petit sans se mettre des barrières et sans se dire tiens je cherche quelqu'un comme ça sinon c'est plus possible.
Oui, ce que vous dites est intéressant, c'est qu'il faut s'adapter à la personne qu'on a rencontrée non pas vouloir l'adapter à nos attentes quoi.
Voilà, il y a quelques critères sur lesquels je peux pas déroger. C'est surtout qu'il soit sportif et une personne qui aime sortir. Voilà, il y a quelques critères comme ça que je peux pas négliger. Mais après, je suis ouverte à la personne et j'essaie de l'apprécier au mieux.
Bon, Marie a compris le principe de l'amour finalement.
Tout à fait.
Je suis vraiment ouverte à toute personne. Je ne suis pas fermée sur quelque chose de précis. Voilà.
Oui, je pense que j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est-à-dire que nous avons tous ce que j'appelle moi des prérequis.
Oui, et les cartons rouges aussi.
Les cartons rouges. Il y a des choses avec lesquelles les uns ou les autres on ne peut pas composer et il faut pas se forcer parce que ça vous rattrapera toujours. C'est-à-dire que même si vous fermez les yeux, un jour vous les ouvrirez. Mais une fois que vous avez ces prérequis, pour le reste, je suis totalement d'accord avec vous. La vie, ça se construit, ça ne se décrète pas.
Oui. Et à chaque fois, je fais de très belles rencontres. Moi, j'ai jamais fait des rencontres qui étaient négatives. On m'a toujours apporté énormément et c'est vraiment un enrichissement.
Dites-moi,
pour moi.
Marie, heureusement que votre mari vous a quitté. Hein.
Oui, il le regrette énormément et il fait tout pour revenir maintenant, d'ailleurs.
Oui, parce que là, maintenant, vous êtes une femme qui s'assume, qui s'épanouit.
Oui.
Bon, comme quoi, finalement, parfois, le divorce a du bon.
Oui, c'est vrai, mais je crois qu'il a eu la force de caractère de me quitter, que moi je l'aurais peut-être jamais fait, et en cela je le remercie d'ailleurs. Voilà.
Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage, Marie. Merci.
Merci. Au revoir.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Pour résumer, rapidement, c'était une amie qui m'avait conseillé en fait de
m'inscrire.
Oui, voilà en fait. Et plus particulièrement même avait par curiosité, sachant que j'habitais dans un milieu rural, etc., m'avait dit j'ai parlé avec tel garçon qui a l'air de pas connaître beaucoup de monde par chez toi, etc., ça serait bien que tu le contactes. Donc, je l'ai contacté, effectivement, puis c'est mis en place, finalement, une relation assez sympa au départ, donc de beaucoup d'échanges, beaucoup de partages sur nos visions de la vie, avec beaucoup d'humour, etc., enfin, une approche toujours qui rassure, en fait. Et en fait, ce qui est assez intéressant aussi, ce que j'ai pu observer par la suite, c'est qu'en fait, c'était une période où j'étais moi-même dans le vouloir vivre le moment présent, en fait. J'étais pas dans de la projection, j'étais pas à la recherche de quoi que ce soit, en fait. Donc, j'ai vécu cette rencontre vraiment au moment présent, et même quand on s'est rencontrés de vive voix, etc., qu'on a commencé à se voir, je ne me mettais certainement pas de limite, hein, et je me disais que du jour au lendemain ça pouvait se terminer en fonction aussi de lui, en fait. Voilà. Et puis au fil du temps, c'est instauré malgré tout. Dès le départ, il y a eu beaucoup, comme je vous disais tout à l'heure, par écrit déjà beaucoup d'échanges. Donc en fait, ça a continué même lorsque l'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à se fréquenter. Donc bien sûr, il y a en parallèle une relation sexuelle qui s'est mise en place, etc. Hein, mais il y avait beaucoup de complicité, beaucoup de communication.
Mais ce que vous dites, je l'entends énormément. Je me dis que finalement, au fond, la plupart du temps, on dit toujours qu'on cherche l'amour. Je crois qu'on cherche surtout quelqu'un avec qui on peut partager une vision de la vie.
Oui.
Avant même, alors on appelle ça peut-être l'amour, mais finalement, c'est bien ce que j'entends très souvent.
Oui, totalement. Et puis, c'est vrai que ça a été une découverte plus que d'amour, parce que finalement, au fur et à mesure, il y a vraiment de l'amour qui s'est instauré entre nous. Lui-même, en plus, était à cette époque pas du tout dans une projection de couple. Et ça, j'ai respecté son espace. C'est-à-dire que au départ de notre relation, on était très complices, on se disait tout, il était très transparent. À l'époque, il voyait d'autres filles, hein, d'ailleurs, également. Il faisait des rencontres sur Internet, mais moi, j'étais au courant, en fait. Il me mettait au courant de tout, donc tout était très clair entre nous. Il y avait vraiment des limites à respecter, etc., qui étaient très claires. Et du coup, au bout d'un moment, enfin, on a su, en fait, au fur et à mesure, s'écouter et puis faire la part des choses. Et en fait, au bout d'un moment, on se dire, ben là, on veut se mettre en couple, voilà. Et ce qui a instauré, c'est vraiment de la confiance, en fait, dans notre couple. Et puis, il y avait également autre chose en parallèle, c'est que c'était une époque où moi-même, je me rencontrais dans mon moi profond de femme, parce que j'ai 30 ans, et c'est vrai qu'on se rencontre, je pense, réellement, en tant que femme, à cette période, à peu près, voilà, 28, 29, 20, 30 ans, que ça va être différent selon les personnes.
On va dire que c'est une étape, mais il y en aura d'autres, Isabelle.
Donc, hein. Oui, je m'en doute. Et du coup, c'est vrai que cette relation, en tout cas, a répondu à mes attentes à ce moment-là et continue à répondre à mes attentes, puisqu'aujourd'hui, on construit notre vie ensemble. Donc, c'est vraiment voilà, une belle histoire que je voulais partager. Voilà.
Mais vous avez eu, en effet, la patience, le temps pour vous. Hein, vous êtes tout doucement apprivoisés l'un l'autre, en quelque sorte.
Oui. Oui,
et il faut pas oublier que en fait la relation ça naît quand même de deux individus qui sont disponibles, qui sont en demande, alors consciemment ou inconsciemment, et le fait d'aller sur des réseaux internet, on a par définition que des gens disponibles, et c'est probablement une partie de la réussite des relations sur internet, c'est que en fait on ne s'adresse qu'à des gens qui sont dans la même demande, et donc ça facilite les choses.
Voilà.
Mais écoutez, on vous souhaite tout le bonheur du monde, comme on dit. Hein.
Bah, merci beaucoup. Merci.
Et merci de votre témoignage, Isabelle. Merci,
merci
beaucoup.
Merci, bonne journée.
Et c'est presque l'heure de nous quitter, mais bien sûr, la lecture coquine dans un instant.
RMC, tout ce que les femmes se disent entre elles, c'est dans le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lae fait son show, c'est le Lae Night Show.
Et nous allons repartir avec ce petit florilège, avec Ugraine qui nous avait expliqué les problèmes de fertilité. Et puis ensuite, nous écouterons Olivier qui a connu un vrai parcours du combattant pour devenir papa. Le message d'espoir de Cécile, dont le médecin généraliste lui avait donné un conseil tout à fait judicieux pour réussir à tomber enceinte.
RMC, c'est le Lae Night Show.
L'humain, il est fait de physique et de psychique, et que c'est vrai que chaque fois je le répète, mais il faut prendre en compte les deux. Et d'ailleurs, on a des arguments pour ça. C'est-à-dire que quand, par exemple, si on regarde les choses que d'un point de vue technique, on va dire une femme vient voir un spécialiste parce qu'elle n'a pas d'enfant. Le monde psychique dit non, c'est pas la raison. La bonne raison, c'est pas celle-là, c'est qu'elle souffre de pas avoir d'enfant. Parce qu'une femme qui n'a pas d'enfant et qui en souffre pas, elle va faire autre chose de sa vie, d'aussi constructif si ce n'est plus, et donc le problème est celui de la souffrance et non pas que du manque d'enfant. Ça, c'est le premier argument.
Absolument, oui, je l'entends bien, oui.
Ah ben oui, je pense, oui. Mais justement, vous seriez très belle, quelqu'un de très bien pour faire passer cette idée, Brigitte. Et puis l'autre chose, c'est... quand on regarde la façon dont on...
Mais est-ce que ça, oui. Excusez-moi, Ugraine, je vous coupe, mais est-ce que ça veut dire qu'au fond, quand on est dans une souffrance, quelle qu'elle soit d'ailleurs, de toute façon, c'est déjà un handicap à la fertilité ?
Pas forcément, mais on va dire que tout ce qui va... L'infertilité est une occasion de mettre en avant et de mettre en conscience, on va dire, des douleurs enfouies très profondément.
D'accord.
Et que si on se précipite dans la technique, on passe outre une douleur qui n'a pas dit ce qu'elle avait à dire, qui n'a pas été prise en compte, et qui fait qu'on joue à ce que j'appelle la roulette russe. C'est-à-dire que la roulette russe, c'est vous voulez traverser une avenue où il n'y a pas de, de passage clouté à, dans Paris, vous regardez que d'un côté. Si vous regardez que d'un côté, eh ben vous risquez votre vie. Si vous vous occupez dans l'humain du physique et du psychique, vous prenez moins de risques. C'est surtout
oui,
ça.
Oui, d'accord. Je crois que l'image est très parlante.
Ah oui, l'image est parlante. Je pense qu'elle est parlante. Et l'autre chose, c'est que quand on considère les résultats en termes de, d'infertilité, on parle toujours d'enfants. Mais on sait très bien que c'est tout à fait insuffisant, puisque ce qui compte, c'est que peut-être il y a un enfant, peut-être. Mais qu'avec ou sans enfant, l'homme, la femme, le couple soient épanouis. Et s'il y a un enfant qui s'épanouisse aussi. Alors c'est vrai que c'est plus difficile à apprécier et que du coup, bien, on a un petit peu contourné le problème en disant, bon, bah, s'il y a un enfant, c'est qu'on a fait bingo, c'est réussite.
On a, oui, mais c'est ça, on a fait son boulot. Voilà. Oui, mais du plan de vue humain, on sait très bien que d'abord, le parcours du combattant pour, quand on rentre dans les FIV, etc., ça peut détruire le couple.
Bien
donc
sûr,
c'est d'autant plus important, en effet, de,
voilà,
de prendre en compte ce, ce...
Et puis derrière tout ça, il y a de toute façon une douleur qui est très différente selon les femmes. C'est-à-dire l'absence d'enfant est en fait liée aussi à une douleur très différente selon les femmes. Et si on n'identifie pas cette douleur, la réponse va être désadaptée. Et donc c'est pour ça que j'appelle ça jouer la roulette russe. Alors pareil, c'est pas une critique envers la médecine, parce que la médecine, elle fait ce qu'on lui a appris, c'est la technique. Mm-hmm. Mais il y a un manque profond dans les formations médicales, du point de vue psychologique. On n'apprend même pas la sexualité, vous voyez. Donc on nous dit, on est gynécologue-obstétricien, on n'a rien appris en sexualité dans nos études, ou très peu. La technique, je veux dire, l'aspect médical.
Mais c'est valable pour toutes les parties du corps. Hein, on soigne une épaule, on soigne un genou, on soigne un utérus, mais on soigne jamais l'être dans cette globalité en France.
Oui.
En France, dans beaucoup de pays d'Occident. Occidentaux, en tout cas.
On essaye, mais très peu, oui.
Ouais. On va continuer à en parler, bien sûr, et tant qu'à faire, avec vous, au 32-16. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Vous avez 35 ans et vous avez mis 3 ans donc, pour avoir un enfant. Et vous dites, un vrai parcours de combattant.
Tout à fait. Bonjour à votre invité également.
Bonjour.
Je rejoins un petit peu l'avis de votre invité pour avoir vécu ça en direct. Après 7 ans ça fait 7 ans que je suis avec mon ami. On a attendu d'être rapprochés géographiquement pour envisager d'avoir un enfant. Donc elle a donc arrêté la pilule et elle a mis 3 ans. Donc au bout de 3 ans, on n'arrivait pas à avoir d'enfant et on a décidé d'entamer la procédure médicale classique avec les tests, les analyses, les rendez-vous chez le gynécologue. Enfin, voilà, les analyses médicales ont révélé qu'on n'avait pas d'infertilité, mais pas des performances maximum pour avoir un enfant. C'est-à-dire que les tests des spermatozoïdes, l'immobilité, le nombre de spermatozoïdes n'était pas au maximum, mais c'était pas contre. Enfin, ça nous empêchait pas d'avoir d'enfant. Malgré tout, on n'arrivait pas à en avoir et on a décidé. Enfin, on a lancé la procédure avec 2 inséminations consécutives, artificielles, alors avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire quand c'est le moment, il faut y aller tout de suite, c'est-à-dire poser des journées du jour pour le lendemain pour aller au laboratoire, enfin voilà. Et je reviens sur l'accompagnement psychologique autour de tout ça. Car à aucun moment on nous a abordé de parler de notre vie à nous, en fait. On est rentré tout de suite dans le côté médical et on n'a jamais parlé. C'est vrai qu'on a nous, on a 2 travails avec des horaires décalés, par exemple. On travaille de nuit, des travails physiques. On nous a pas parlé de notre environnement. Enfin, voilà, tout ça, ça n'a pas été pris en compte. Et donc les 2 inséminations se sont révélées pas négatives et on a réussi malgré tout la finalité à avoir un enfant naturellement. Alors suite à une période de vacances de mon amie qui s'est pas très très bien passée et on s'est retrouvé avec peut-être qu'elle pensait à autre chose. On parle souvent de ça et il s'avère que voilà, on a eu un enfant il y a 6 mois et naturellement, et tant mieux. Voilà, je dirais.
Oui, et d'ailleurs très souvent, on l'entend bien, quand le couple arrive enfin naturellement à avoir un enfant, c'est presque une victoire sur la médecine. Hein. Comme si finalement, il n'y a rien de plus beau que de l'avoir naturellement. Quoi.
Alors, il n'y a rien de plus beau que de l'avoir naturellement, ça je confirme. Et qui plus est, je pense que le parcours médical est semé d'embûches et semé surtout d'un business médical autour de la fertilité. On joue, bien sûr, on arrive dans une position de faiblesse parce qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant. On se retrouve dans une salle d'attente où il y a 15 personnes qui sont convoquées à la même heure pour avoir un entretien sur lesquels on nous dirige vers le laboratoire chez qui le gynécologue a déjà enfin, après, c'est un autre, peut-être un autre débat, mais le gynécologue a des parts de marché sur le laboratoire qui est en face. Il travaille avec un laboratoire qui se trouve à 200 km dans lequel il est actionnaire. Et bien sûr, si vous voulez un rendez-vous plus vite, eh ben, il est vivement conseillé d'aller dans ce laboratoire parce que vous aurez un rendez-vous plus vite. Voilà. Et donc, c'est un laboratoire où, qui est pris en charge. Alors après, c'est encore un autre débat par la sécurité sociale.
Enfin, ça, c'est un procès de société qu'on pourrait faire pour beaucoup de choses, Olivier. On, on s'éloigne un peu de notre sujet.
Mais psychologiquement, ça ne nous aide pas. Voilà, vous êtes dans une espèce
Je crois, tout simplement que de toute façon, psychologiquement, on ne vous prend absolument pas en charge. C'est tout.
Voilà, exactement. Exactement, et je suis ravi qu'on ait réussi d'avoir cet enfant naturellement. On a le projet d'en avoir un second dans quelques temps. Et j'espère que...
vous y êtes arrivé naturel. Une fois, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas deux fois, hein, Olivier.
Oui, oui.
Bon, soyez positif, soyez positif.
Je suis positif, il faut espérer que ça ne mette pas trois ans comme la première fois. Quoi. Voilà,
vous verrez bien le temps que ça met.
Il y a deux choses. D'abord, l'infertilité ou la difficulté à concevoir un enfant, elle est liée, dans votre cas, à un problème statistique. C'est-à-dire que s'il y a une baisse de la fertilité optimum chez vous et chez votre femme, bien évidemment, ça diminue les chances par cycle. Donc après, c'est une question de temps. Ensuite, je voudrais juste dire une chose par rapport à votre remarque sur l'aspect financier. Moi, je n'ai pas vu cet aspect-là autour de moi et dans tous les centres que j'ai côtoyés. Je dis pas qu'ils gagnent pas de l'argent et qu'il y a pas des abus sûrement. Mais si vous voulez, moi, quand les patientes venaient me voir et qu'elles étaient pressées, je les envoyais au laboratoire que je connaissais parce que je lui donnais un coup de fil et je lui disais, écoute, cette femme, elle va pas bien, il faut le s'en occuper. Est-ce que tu peux la prendre entre deux? Donc, si vous voulez, je peux comprendre qu'il y ait quelquefois des abus financiers, mais je pense qu'il faut pas donner cette image de la médecine totalement parce que moi, je sens que c'est pas aussi juste que ça partout.
Non, je ne pense pas, je ne fais pas de généralité, bien entendu. Hein. Là, c'est vraiment ce que j'ai vécu, enfin, ce que nous avons vécu. Voilà,
mais ce que vous avez ressenti, hein, peut-être plus que ce que vous avez vécu. Encore une fois, on n'en sait rien. Et puis, ce qui est clair, c'est que dans votre cas, on l'entend bien, vous êtes retrouvé face à des gens qui, au fond, ne voyaient que le côté technique, alors que vous étiez deux êtres un peu désemparés, qui avaient besoin...
Après, c'est vrai, dans la mesure où on fait la démarche vers les spécialistes, c'est vrai qu'on est aussi volontaire pour se soumettre au côté médical de ce qu'il y a à faire. Donc là, on se laisse porter. Donc après, c'est vrai qu'ils ne sont pas psychologues. On ne va pas voir un psychologue. Peut-être qu'après, c'est une autre démarche qu'il faudrait peut-être faire en parallèle.
Mais quand même, moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, Olivier, je ne sais pas, Ugraine, on entend bien que Olivier, de toute façon, et sa femme ont eu un enfant naturellement. Bon, ok, ils étaient peut-être avec moins de chances que quelqu'un qui est complètement au maximum de ses chances. Mais est-ce qu'on ne peut pas plutôt les rassurer et leur dire, écoutez, faites beaucoup l'amour et puis ça viendra, non?
Voilà, alors après,
je sais pas.
Tout dépend du contexte, c'est-à-dire ça va dépendre de l'âge des deux, des paramètres.
Olivier a 35 ans, donc
voilà,
il est jeune
c'est
encore.
Ça, donc il y avait le temps. Alors, après, c'est un problème statistique là, donc on calcule et puis on essaie de voir ce qui est le mieux. Et là, c'est quand même un peu de l'art.
Ouais. Ce que je voulais aussi, l'objectif de mon appel, c'est d'encourager, voilà, dans la mesure où il n'y a pas de contre-indication médicale, d'encourager les couples qui veulent avoir des enfants à ne rien lâcher et puis à faire l'amour, bien sûr.
Ben voilà, oui. Opportun. Parce que ça, c'est quand même la meilleure solution, hein, Olivier.
C'est évident. Mais voilà, s'il n'y a pas de contre-indication médicale, ne pas se décourager de croire en son couple et à l'amour du couple pour arriver à faire un enfant. Et quand ça arrive, c'est une belle aventure. Voilà.
Merci de votre témoignage, Olivier. Merci beaucoup.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaye.
On a Cécile qui est avec nous. Bonjour Cécile.
Oui, bonjour.
Vous avez 36 ans et c'est votre généraliste donc, qui vous a donné un super conseil.
Oui, en fait, c'était pour donner un petit message d'espoir à toutes ces femmes et ces hommes qui se sentent un petit peu démunis par rapport au fait de faire un enfant. Moi, j'ai essayé avec mon compagnon pendant pas mal de temps de faire un enfant. On s'est pas trop posé de questions, donc on n'a pas suivi on n'a pas été confronté à la PMA et tout ça. Mais au bout d'un an et demi, on a vu. Je suis allée voir mon généraliste en disant quand même, puisqu'on commençait avec mon compagnon à calculer les jours et tout, à être un peu désœuvré par rapport à ça. Et je suis allée le voir, je dis quand même, on n'arrive pas à faire d'enfant. Et alors il m'a regardé, il m'a dit, vous savez quoi, vous devriez faire un voyage en Espagne ou organiser une fête, penser à autre chose. Et voilà, la séance de généraliste, il m'a ausculté en disant « J'ai l'impression que tout va très bien, mais si dans quelques mois ça va pas, vous revenez me voir, on fera des analyses. » Et un mois après, j'étais enceinte.
Et oui, vous avez eu l'autorisation du savant, hein, entre guillemets. Moi, je crois beaucoup.
Du savant.
Je crois beaucoup à ça.
Alors, moi, je vais vous raconter une histoire qui va beaucoup vous plaire, je pense.
Oui.
C'est une patiente que je suivais il y a de nombreuses années en infertilité. Et puis, c'est vrai qu'on savait pas trop quoi faire. Et un jour, elle avait une relation difficile avec sa mère. Hein, donc, par rapport à ce que vous disiez. Et elle part en Corse. Et là, elle se sent libre de sa mère, libre de tout. Et elle revient enceinte. Et donc, pour le deuxième enfant qui était long à venir, je lui réponds, bah, écoutez, retournez en Corse. Elle est retournée en Corse. Elle est venue enceinte du deuxième en revenant de Corse. J'avais dit ça en boutade, mais vous voyez finalement.
Donc les Corses sont
je suis aussi
fertiles.
Bon comme médecin généraliste. Ou alors les Corses sont fertiles, c'est peut-être ça aussi. Là, c'est pas une belle pensée, ça, Brigitte.
Comment ça? Les Corses sont tout à fait d'accord avec cette pensée, je suis sûre.
Je parle pour cette femme.
C'était une boutade, vous l'avez
j'imagine
bien compris.
Bien.
Bon, en tout cas, Cécile, ça montre bien que là, encore une fois, c'est une sorte de pensée magique qui fait que ça arrive. Voilà.
Et moi, ouais, c'est surtout que je pense qu'il faut que il y a un moment dans la vie où on est très stressé, en tout cas dans cette génération-là, par rapport à la fertilité. On parle de PMA, de fécondation in vitro, etc.
Est-ce que finalement la morale de cette histoire, Cécile, c'est il faut pas se prendre la tête,
il faut se prendre tout court. Hein.
Oui, c'est vrai. Après, moi, je voudrais juste dire une chose, parce que je voudrais pas que dans cette émission, on a tous ces témoignages, mais il y a quand même quelques fois où
bien
il faut
sûr,
pas trop faire confiance.
Mais bravo la médecine,
voilà,
attendez.
Voilà. Non, bien je sais sûr, bien, mais bien sûr. Je dis ça pour les auditeurs, pas bien sûr.
Bien sûr.
Non, après, il y a des personnes chez qui, effectivement, il y a des problèmes de fertilité, etc.
Mais quand même.
C'est bien parce qu'on a la science.
Non, mais quand même, en conclusion, je voudrais, parce que c'est vrai que c'est un problème de société actuelle. Au 21e siècle, on voit le nombre d'enfants qui arrivent par PMA, on voit la difficulté que plein de femmes, plein de couples ont pour avoir des enfants. Et quand on se replonge un siècle avant, y avait un problème d'avoir trop d'enfants. Et
oui,
on espérait trouver un moyen de contraception.
Tout à fait,
c'est quand même
c'est
extraordinaire sur le plan de la...
Ouais.
Enfin, je sais pas, moi ça me... Ça me pose question quand même. Ça me pose quand même question. Alors, est-ce que les femmes sont plus heureuses aujourd'hui ou moins? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même une question intéressante à se poser sur un plan tout à fait général.
Tout à fait.
Vous êtes d'accord quand même, Ugraine?
Parce que
en 1915, ouais. C'était quand même. Enfin bon, les hommes étaient à la guerre. Remarquez, les enfants n'arrivaient pas comme ça. Mais, au début du siècle dernier, c'était bah
même
plutôt
en
le problème.
45, 47, 50, il y avait pas de contraception. Je ne serais pas là s'il y avait eu la contraception.
Moi non plus.
Non plus. Vous voyez,
le baby boom, on sait très bien que c'était plutôt trop d'enfants que pas assez.
Ça s'appelait les enfants originaux à l'époque, puisque tout le monde contrôlait la température avec plus ou moins bon résultat. Je suis un mauvais résultat de la méthode originaux.
Et ben moi aussi.
Moi aussi.
Bienvenue au club. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste de traitement de l'infertilité et auteur de Nouveaux parents, nouveaux enfants aux éditions Favre.
RMC, quand Brigitte Lahaye fait son show, c'est le Lahaye Night Show.
Et on va se quitter dans un instant avec la lecture érotique du soir, bien sûr. Mais je voulais vraiment vous remercier, Julie Duchemin, d'être venue ce soir. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'Académie des Arts de l'Amour. On retrouve beaucoup de conseils sur ce site, julieduchemin.com. Françoise Saint-Père, merci beaucoup, notre prêtresse ou papesse de
des amours pluriels.
Et d'ailleurs, justement, ce guide des amours pluriels, c'est aux éditions Pocket. Stéphane Clergé, merci aussi d'être venu nous tenir compagnie. Et puis bien sûr, vous êtes auteur de nombreux livres, notamment aux éditions Jeunesse Limonade. N'hésitez pas à lire Stéphane Clergé, non pas pour adultes, mais pour les enfants.
Oui, pour les ados, oui. Les enfants.
Alors, ce soir, j'ai choisi de lire un extrait de Joy et Joanne. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un livre qui, d'abord, avant d'avoir été le film dans lequel j'ai eu le plaisir de jouer. Et alors, j'ai choisi la scène de rencontre, enfin pas la scène de rencontre, mais la première scène de sexe entre Joy et Joanne, hein, donc entre ces deux femmes, parce que je me suis dit que c'était peut-être la scène la scène clé, si je puis dire, du livre. Dans les couloirs déserts, j'ai frôlé des hommes dont certains ne se poussaient pas assez. Dans ces cas, je les fixe un instant, avant et après, c'est toujours eux qui baissent les yeux. J'ai retrouvé notre wagon.
Joanne était allongée sur sa couchette, une jambe pliée. J'ai jeté mon t-shirt sur la moquette, mes jeans à côté. Je me suis aspergée d'eau tiède, il faisait trop chaud, même avec la vitre ouverte et le vent qui frisait nos cheveux. Je l'ai prise dans mes bras à la sortie de Chalon-sur-Saône. Le wagon tanguait doucement. Elle s'est retournée en poussant un soupir et j'ai suivi prudemment le creux de son dos qui se tendait sous ma caresse. Quand j'ai senti la chair plus chaude et plus douce des fesses, je me suis un peu remontée et puis redescendue un peu plus loin encore. Joanne a levé la tête. « Dis-moi des choses excitantes. » Je ne savais pas pour elle. Les mots doivent être justes lorsqu'ils sont forts. Et j'avais peur de commettre une faute. Je l'ai embrassée avec prudence, la peur instinctive du courant électrique, des charges peut-être mortelles d'un cœur gros paraudé. Elle sentait la cannelle et la coriandre de Mogador, avec en plus cette odeur de bébé endormi qui calme et qui rassure. Je l'ai tant caressée qu'elle s'est abandonnée, les jambes ouvertes pour la première fois sur son sexe trempé comme une grenade douce. Le jus sucré coulait sur mes lèvres et je mangeais le fruit. J'aspirais la pulpe, les pétales soyeux. Elle était brûlante au fond, où ça battait comme un cœur, un étui pour mes doigts timides et lents qui tournaient en insistant sur le bouton fragile et insupportable. Joanne, la pauvre, étouffait ses gémissements dans un oreiller de la Compagnie internationale des wagons-lits. Et on se quitte sur cet extrait de Joy et Joanne, de Joy Loret. Et puis demain, demain nous serons avec Sandrine Alexis, Françoise Saint-Père, qui sera également avec nous demain, et Jérôme Soubéranc, le réalisateur de ce fameux film Ceci est mon corps. Je vous dis à demain.
RMC, quand les femmes se lâchent, c'est dans le Late Night Show.